Père Bernard Lucchesi, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs.
Voilà, Père, on vous accueille dans le cadre de cette émission du vendredi à 14h35, témoignage de prêtre. On va parler un petit peu de votre parcours. Père, je vais vous laisser peut-être vous présenter d'abord en quelques mots à nos auditeurs.
Oui, alors je m'étais déjà présenté historiquement, donc je ne vais pas le refaire, mais par contre, j'ai un grand changement puisque Monseigneur Aveline, l'archevêque de Marseille, m'a nommé depuis le 1er septembre curé de la paroisse de Saint-Victor, c'est-à-dire recteur de la basilique de Saint-Victor à Marseille, qui est vraiment un centre historique, culturel, spirituel de notre diocèse de Marseille.
Père, donc je vais peut-être vous laisser revenir un petit peu en arrière sur ce qu'était votre parcours. Vous étiez effectivement intervenu dans une émission précédente, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Votre parcours a été très riche.
Donc oui, on s'était arrêté au niveau du moment de la vocation. C'est-à-dire que le Seigneur, à l'âge de 16 ans, à la suite d'une épreuve personnelle, parce que j'étais opéré 3 fois d'un genou droit qui était défectueux, qui m'a provoqué beaucoup de souffrances physiques, mais aussi morales et du coup psychologiques, eh bien le Seigneur du coup m'a pas abandonné et il a toujours été là, il me l'a montré par des signes, que ce soit la famille, que ce soit les religieux maristes chez qui j'étais, et puis il m'a fait sentir qu'il voulait que je m'approche de lui et vivre une expérience intime. J'avais 16 ans, j'étais en seconde. Et c'est lors d'une séance de catéchèse dans mon lycée catho qu'un reportage à l'époque audiovisuel avec des diapositives et des cassettes de l'époque, eh bien m'a saisi. J'ai dit au frère, j'aimerais bien rencontrer avec quelque chose qui m'attirait, j'aimerais bien faire une expérience dans un monastère. Et du coup, il nous a amené quelques élèves qui le voulaient pendant le week-end de l'Ascension, du vendredi après l'Ascension jusqu'au dimanche après-midi, à l'abbaye des Guebelles, qui se trouve dans la Drôme, après Montélimar. Et là, je me rappelle très 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 bien, c'est au terme des complis de ce vendredi, le lendemain de l'Ascension, qu'à la fin, lorsque les moines ont entonné le Salve Regina, que je n'avais jamais entendu de ma vie, c'est la première fois que je mettais les pieds dans un monastère, j'ai eu une chair de poule, je ne comprenais rien, c'était du grégorien, je n'ai pas fait de latin, j'ai fait une filière scientifique et pas littéraire, et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est passé, la Vierge Marie est éclairée, le reste est dans la pénombre, et à la fin, tout s'éteint. Et un quart de seconde, toute l'église abbatiale se retrouve dans le noir. Et là, il n'y a plus qu'une seule lumière, la lumière du Saint-Sacrement. Et là, c'était clair, une chaleur et une présence qui m'a dit « Bernard, je te veux à ma suite ». Et du coup, j'ai dit oui de suite. Voilà comment ça s'est fait pour que les auditeurs comprennent.
C'était une illumination, mais c'est passé peut-être par on va dire l'écoute.
Et oui, tout à fait, une écoute d'aller sur un chemin non maîtrisé, non connu, et soutenu par la médiation de l'Église, parce que ce frère est religieux, donc du coup, pour moi, avec le prêtre de la paroisse où j'allais à la messe le dimanche, et pour moi, c'était le vis-à-vis, quoi, qui représentait l'institution ecclésiale. Et du coup, le Seigneur m'a dit, suis les personnes, mes ministres que j'ai mis sur ton chemin pour venir jusqu'à moi. Et là, du coup, le Seigneur m'a accueilli. Et c'est vraiment la phrase de biblique, hein. Je me suis laissé saisir par le Seigneur.
Et alors justement, Père Bernard, qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors ?
Alors après... j'ai eu une première désillusion ecclésiale, dans le sens où, pour moi, mon référent, mon repère institutionnel, c'était ce religieux, mais moi, c'était clair que Jésus me voulait prêtre. Parce que c'était clair, pas moine, alors qu'on pourrait se dire, mais comme c'est dans un monastère, il faut devenir moine, pas du tout. C'était clair qu'il me voulait comme les apôtres, de ses apôtres. Et il me dit, mais moi, je suis religieux, je ne suis pas prêtre. Et il me dit, il faut que je te confie au service des vocations. Et le plus beau, c'est que le bon Dieu, il ne fait rien à moitié. Son provincial le nommait à Saint-Étienne, donc il quittait Marseille alors qu'il me connaissait depuis le primaire, ce religieux. Je perdais mon point de repère. Et à nouveau, c'était un deuxième lâcher-prise. Le premier lâcher-prise, c'était « va voir le religieux et te mènera là où je te veux ». Deuxième lâcher-prise, « t'as plus ce religieux, va voir un prêtre que je ne connaissais pas ». En plus, c'est assez à nouveau très, très particulier, parce que ce religieux que j'ai rencontré au mois de juin, durant l'été, il a quitté le ministère, il est parti avec une femme. Et à la rentrée, alors que c'est lui que j'aurais dû retrouver, j'ai trouvé un autre prêtre et qui n'osait pas me dire ce qui s'est passé pour ce prêtre-là, quoi. Et pour vous dire vraiment, c'est le Dieu écrit droit avec les lignes courbes de toutes nos vies. Voilà. Et donc à la rentrée, j'étais au service des vocations, mais j'avais 16 ans, donc il n'y avait que des garçons et des filles qui avaient au moins 18 ans. Entre 18 et 30 ans. Et donc, vous imaginez un jeune adolescent, comme ignare de tout, et je ne me suis pas senti à ma place, je ne me suis pas senti à l'aise, et du coup, je leur ai écrit un mot en leur disant que ce n'était pas ma voix. Mais le bon Dieu, du coup, fait bien les choses, encore une fois, il écrit droit avec une courbe, et c'est à ce moment-là que un des vicaires de ma paroisse de Bonneveine à Marseille était parti, était nommé ailleurs. Un nouveau vicaire est arrivé, que je ne connaissais pas, qui était jeune, il avait la petite trentaine à l'époque. Alors que je ne connaissais pas, sa manière de célébrer la messe, sa manière de prêcher, m'a attiré à lui et m'ont fait être convaincu que c'était à lui qu'il fallait que je confie ma vocation. Et depuis, j'avais 16 ans, j'ai 56 ans, ça fait 40 ans que j'ai toujours le même père spirituel, il est encore vivant. À Marseille, c'est mon père spirituel.
Alors ça, c'est vraiment une œuvre de fidélité, on va dire.
Eh bien oui, c'est ça. Le lâcher-prise et en même temps l'enracinement. C'est les deux. Voilà, le bon Dieu, c'est pas qu'un enracinement qui, du coup, nous confinerait. C'est pas du tout bon, le confinement. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pas non plus un lâcher-prise qui fait que on vivrait tout azimut, tout et n'importe quoi. Non, non, non. Les deux, un enracinement intérieur pour mieux vivre un lâcher-prise extérieur.
Et oui. Et alors ensuite, Père Bernard, comment ça s'est déroulé? Parce qu'il a fallu passer par toutes ces études aussi, devenir prêtre, être ordonné.
Donc, mon père spirituel, j'étais en seconde, me dit « fais le bac ». Et après, on verra. Mais moi, j'étais convaincu qu'après le bac, je rentrerai au séminaire. J'ai fait, vous savez, ma petite enquête. En demandant, le petit séminaire n'existait plus, donc le grand séminaire c'était à partir de 18 ans, donc là, après le bac, je me suis dit je rentrerai. Et après avoir fait un bac D, à l'époque il y avait C et D, maintenant il n'y a plus que S, je crois, et du coup j'ai fait un bac D, là je m'en rappellerai toujours, donc c'était mon confesseur, je me confessais à lui, il m'avait fait m'engager en catéchèse avec un groupe de jeunes de Bonneveine, on s'occupait de la première communion à l'époque où il y avait 3-4 groupes de première communion, alors aujourd'hui pour en avoir un c'est pénible, mais à l'époque c'était pas le cas, hein. Et c'était magnifique, j'ai vécu des heures magnifiques d'engagement dans l'église en étant jeune lycéen. Il m'a même fait rentrer au conseil pastoral de la paroisse pour représentant des jeunes. Bon, ça m'a gonflé, pour tout vous dire, mais c'est une bonne expérience quand même. Et donc, après le bac, pensant rentrer au séminaire, je me rappellerai toujours, il m'a convoqué, il m'a dit « Bernard, tu veux devenir un bon prêtre ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr ». Il me dit « C'est quoi un bon prêtre ?» Ben, je dis « Un bon prêtre, c'est un prêtre qui aime Jésus, qui fait les baptêmes, les mariages, les enterrements, le catéchisme, qui visite les malades, qui prêche la bonne nouvelle. » Il me dit « Non, c'est pas ça. » Alors, j'étais surpris. Alors, je lui dis « Mais c'est quoi un bon prêtre ?» Eh bien, un bon prêtre, c'est un prêtre qui est capable aussi bien d'accompagner un éboueur, un cantonnier, qu'un ingénieur, un médecin, un député, un ministre et le président de la République. Et j'ai dit, ben oui, mais c'est ça, il n'y a pas de souci. Et tu crois qu'avec le baccalauréat, tu vas pouvoir faire ça? J'ai dit, non, je ne pourrais pas. Il me fait, c'est pour ça que tu vas faire des études supérieures. Et là, il m'envoie à la faculté de philosophie d'Aix-en-Provence pour faire des études de philosophie. Et me voilà débarqué c'était avant la chute du mur de Berlin. Hein. Et donc, ça veut dire que l'idéologie communiste et révolutionnaire était très présente. Et en 3 ans, j'ai essuyé 2 grèves d'étudiants. Et comme j'étais non gréviste, je ne vous dis pas comment je me faisais traiter tous les colibés que j'ai dû me supporter. Et là, j'ai plongé dans un univers que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un univers éloigné de Dieu, athée et même anticlérical. Et là, j'ai à nouveau eu une grosse souffrance parce que ça m'a complètement décalqué. Et il a fallu, du coup, que heureusement, je suis toujours bien accompagné par mon père spirituel et qui m'a toujours soutenu et qui, du coup, m'a armé spirituellement et intellectuellement pour justement être formé par ce monde anticlérical, ce monde laïque. Alors, et ce monde sécularisé.
Et Père Bernard, c'est étonnant, ce que vous nous dites justement, c'est que c'était donc, si j'ai bien compris, une université de philosophie laïque, hein, c'est pas du tout un institut de philosophie catholique. Mm-hmm. Est-ce que c'était voulu, justement, pour que vous soyez immergé dans ce monde-là?
Oui, c'était voulu, mais il ne me l'avait pas présenté comme ça. C'était pour me confronter à la réalité à laquelle le futur prêtre devrait tenir compte s'il voulait annoncer Jésus-Christ.
Faire ses armes, en quelque sorte.
Et d'une certaine manière, oui.
Et oui, oui. Et alors, finalement, vous avez obtenu un diplôme?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait une licence. Et après la licence, du coup, s'ouvre à moi là, une maîtrise avec des professeurs qui m'ont demandé de continuer la maîtrise dans leur discipline à eux. Et du coup, j'ai présenté ça à mon père spirituel, puisque je le voyais régulièrement, puisque j'étais engagé sur la paroisse. Et là, il me laisse choisir. Il me dit « Maintenant, Bernard, tu as fait un parcours pas sans faute, parce que je suis pêcheur. Hein. Pour ça, je me confesse tous les mois à mon père spirituel. » Mais maintenant, si tu veux rentrer au séminaire, j'écris à l'archevêque de Marseille, ce qui était le cardinal Coffier, et si tu veux continuer, faire la maîtrise en philosophie, je te soutiens à ça aussi. Et j'ai choisi de rentrer au séminaire, et me voilà parti dans cette aventure de formation pour devenir prêtre.
Alors là, père, j'imagine que le changement a dû être quand même total par rapport à l'université de philo à Aix.
Ah oui, bah, complètement. Complètement. C'est d'abord la vie communautaire. Même si j'avais expliqué la fois d'avant qu'on est 4 enfants, donc du coup, ça ne me fait pas peur de vivre communautairement. Mais là, c'est autre chose, quoi. Parce que la communauté de la famille, c'est régi par papa et maman. Donc on a un cadre commun qu'on apprend, qui nous est inculqué depuis tout petit, bébé. Alors que là, je suis adulte, quoi. C'est à nouveau un cadre qui nous est imposé, mais adulte, c'est-à-dire qu'il faut consentir à cela. Mais comme on a des personnalités, des itinéraires très différents, alors qu'en famille, non, même si on est très différent d'un frère à l'autre, le cheminement, il a beaucoup, beaucoup de points communs, alors que là, c'est tout le contraire, le cheminement a beaucoup, beaucoup de points non communs. Mais le cadre est imposé à tous de la même manière. Et donc, du coup, ça a demandé beaucoup de conversion. Conversion, du coup, à la vie communautaire, conversion à son frère, à le respecter, à le reconnaître, se faire respecter aussi. Hein, mais c'est très enrichissant. Donc, des amitiés se sont créées, bien sûr, et puis les cours qui sont enrichissants, parce que là, cette fois, je ne travaillais plus que la théologie et la philosophie plutôt catholique.
À l'issue de ces études au séminaire, vous avez été ordonné prêtre à quelle période ?
Alors non, parce que comme j'avais plutôt un bon niveau, l'archevêque de Marseille, le cardinal Coffi, m'a envoyé avec un autre prêtre, le père Pierre Brunet, au séminaire universitaire de Lyon pour avoir un diplôme en théologie. Et donc j'étais envoyé à la cathédrale de Lyon, et là j'ai fait une maîtrise en théologie sur le rapport entre le dogme de la Sainte Trinité et le concept philosophique de l'histoire. Est-ce que Dieu a une histoire? Est-ce que l'immutabilité divine peut aller de pair avec l'histoire telle qu'elle est pensée humainement? Autrement dit, est-ce que Dieu peut se révéler historiquement ou pas? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu se révèle historiquement? Est-ce que c'est bien Dieu qui se révèle? Voilà. Donc c'était mon mémoire qui s'est très très bien passé. Après j'étais ordonné prêtre le 4 juillet 1993, et comme il s'est très bien passé, Et l'archevêque de Marseille, le cardinal Coffi, m'a envoyé à Rome, à la Grégorienne, chez les Jésuites, pour faire un doctorat en théologie.
Belle formation, bien poussée, hein, que vous avez reçue.
Ah oui, je comprends. Et donc 3 ans, j'ai logé à la procure de Saint-Sulpice, à Rome, et j'allais tous les jours à la Grégorienne, la première année pour faire mon travail de recherche en thèse, la deuxième année pour continuer ma recherche et commencer à écrire ma thèse, et la troisième année pour finir d'écrire ma thèse. C'est l'année d'après, en revenant de Rome, que j'ai fignolé tout ça, corrigé, et que j'ai présenté ma thèse. Du coup, c'était en 1997.
Et oui, avant de tout ce cheminement dont vous venez nous parler, vous n'aviez pas forcément le désir ou ne connaissiez pas ces dispositions que vous aviez finalement pour l'étude ?
Pas du tout, parce que j'avais fait un bac scientifique, non littéraire, et que du coup, j'ai suivi les plâtres avec la fac de philosophie. Après, ça a commencé à être à l'aise au séminaire. Ça s'est confirmé à Lyon. Et puis, ça a été du coup le sommet avec le doctorat.
Et alors, Père Bernard, une fois que vous avez été ordonné prêtre, où avez-vous été envoyé? Dans quel type de mission? Quel lieu?
Alors d'abord, l'archevêque de Marseille voulait que je fasse d'abord du ministère direct, sans enseignement, pour connaître la vie paroissiale. Et après, par contre, au bout de 4 ans, l'archevêque qui avait changé, c'était le Monseigneur Panafieux, m'a demandé de commencer à enseigner à la cathédrale de Lyon. Donc je suis devenu enseignant à la faculté de théologie de Lyon, tout en étant vicaire paroissial à Aubagne et aumônier des collèges et lycées publics. Et j'ai enseigné à la cathédrale de Lyon jusqu'à peu près en 2010, mais après, là, l'archevêque... donc, entre-temps, j'avais été nommé à l'Estac, à Marseille. Ensuite, j'ai été nommé curé, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois en me présentant, de Cassis, Carnoux et Roquefort de la Bédoule. Mais d'abord, l'archevêque, Monseigneur Pontier, m'avait nommé uniquement comme curé de Carnoux et de Roquefort la Bédoule. Et en 2010, en 2011, ils m'ont ajouté Cassis, et c'est là qu'il m'a demandé si de prioriser surtout le terrain et la pastorale.
Voilà, donc après des temps d'études poussées, l'enseignement, le charisme de l'enseignement, là, vous avez vécu un peu finalement tous les aspects qu'un prêtre doit vivre.
Oui, tout à fait. Et là, je reviens à Saint-Victor, à un équilibre. Parce que dans le cadre de cet habit ancestral et rayonnante, de différentes manières, du coup, je lance avec des paroissiens, des couples, ce qu'on appelle un studium abbatial, où là, justement, on va faire un genre de catéchèse supérieure, des enseignements un peu plus poussés, comme on peut les vivre dans des monastères, dans des abbayes, mais là, appliqués, du coup, à la paroisse et à la ville.
Voilà, et avec des responsabilités que vous êtes déjà en train de découvrir, j'imagine, en tant que recteur.
Eh oui, c'est ça, tout à fait. Lieu de pèlerinage, lieu de historique, avec beaucoup de visites historiques et archéologiques. Et du coup, étant donné que Saint-Victor, c'est le patron de la ville de Marseille, du coup, la basilique de Saint-Victor est un phare de cette ville de Marseille.
Père Bernard, avant de rendre l'antenne, j'aurais une dernière question à vous poser. Avec toutes ces expériences en tant que prêtre aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Ce qui me tient le plus à cœur, c'est mon intimité avec Jésus, le bon pasteur. Parce que il n'y a qu'un seul berger, c'est Jésus. Et sans ce berger unique, il y aurait deux dangers. Soit que je me prenne pour le berger, que je ne suis pas, soit que du coup, je ne sois qu'un animateur. Or, en étant affilié directement à l'unique berger qui est Jésus, je peux être son pauvre et simple et humble représentant.
Mais en tout cas, Père Bernard Lucchesi, merci infiniment pour ce très beau témoignage que vous nous avez donné à l'antenne.
Ben, je vous en prie, merci aux auditeurs et que Dieu les bénisse. Et je prie en particulier pour les personnes soit isolées ou qui rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle ou de couple ou de famille.
Merci beaucoup, Père Bernard.
Au revoir.